Bonjour et bienvenue à tous dans Science Publique. Merci pour votre fidélité aux émissions quotidiennes de Science sur France Culture. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. La révolution numérique de l'éducation a-t-elle eu lieu ? À quelques encablures de la maison de la radio, porte Dauphine, les Assises du numérique viennent tout juste de fermer leurs portes. Pour cette 5e édition, l'un des thèmes abordés a été « De la craie à la tablette numérique, la révolution éducative ». Une formulation qui révèle peut-être le fond du problème. La révolution de l'éducation par le numérique est souvent abordée par le biais du matériel, les ordinateurs, les logiciels, les écrans, Internet ou Twitter seraient les acteurs de cette révolution. Or, la publication cette semaine du résultat du projet SynergieNet, une expérience sur 400 élèves coûtant 15 millions d'euros et menée en Grande-Bretagne pour évaluer l'impact des bureaux écrans multitouch sur l'apprentissage des maths, est essentiellement axée sur l'organisation de la salle de classe autour de ces outils. Plus interactif, l'équipement de la salle de classe baptisée Star Trek a permis d'enregistrer des progrès de 46% des élèves contre 16% d'entre eux dans le même temps avec les traditionnelles feuilles de papier. La révolution éducative naîtrait ainsi des modes d'apprentissage que la technologie rend possible. Et au cœur de ces modes d'apprentissage, on trouve bien entendu le professeur, l'enseignant, sans lequel rien n'est vraiment possible. Lors des Assises du numérique, installées au milieu de l'université de Paris-Dauphine, on pouvait apercevoir par les fenêtres des salles de classe strictement identiques à celles des années 1970. Le professeur, devant un tableau, maniait la craie face à des élèves. La révolution de l'éducation a-t-elle eu lieu ici ? On peut tenter de répondre à cette question, mais également s'interroger sur le sens véritable et sur ses réelles implications sur le système éducatif dans son ensemble. Où en est donc le système éducatif français dans cette révolution si souvent annoncée ? Comment la France peut-elle se retrouver distancée dans la plupart des classements internationaux d'évaluation du niveau scolaire des élèves ? Pourquoi les multiples expérimentations concluantes de nouvelles pédagogies exploitant les nouvelles technologies ne parviennent-elles pas à la généralisation ? Quels sont les points de blocage qui pénalisent ainsi la France ? Qu'attendent les enseignants pour franchir le pas ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio, Alexandre Acou, professeur des écoles en CM2 et professeur de la classe qui utilise le compte Twitter Classe Acou. Et tout cela se passe à Paris, dans le quartier chinois. Paul Mathias est inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de philosophie. Olivier Perlot est vice-président de l'université de Reims-Champagne-Ardennes, délégué à l'université numérique et ancien directeur adjoint de l'IUFM Champagne. Serge Pulissère est président fondateur des Assises du numérique. Et enfin, François Taddeï est directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste de l'évolution et membre du Haut Conseil de l'éducation. Je vous rappelle que vous pouvez, comme toujours, nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. François Taddeï, bonjour.
Bonjour.
Donc vous venez de participer à ces Assises du numérique que je viens d'évoquer et qui viennent de fermer leurs portes. C'était hier, je crois, votre intervention sur cette révolution éducative. En deux mots, pour démarrer ce débat, quel sentiment vous avez eu en participant à cette réunion ?
Eh bien, on voit que beaucoup de choses bougent, mais on voit, je pense que chacun le sent, chacun voit que le monde, l'ensemble des dimensions du monde ont changé grâce au numérique. Et effectivement, comme vous le disiez en introduction, l'un des endroits qui a le moins changé encore aujourd'hui, c'est la salle de classe. Et pourtant, les informations sont beaucoup plus abondantes qu'au 19e siècle, où elles étaient limitantes et où l'enseignant était le seul capable de les apporter aux élèves. Et donc la question aujourd'hui, où on est face à une surabondance d'informations de qualité très hétérogène, est comment est-ce que l'enseignant peut aider les enfants d'aujourd'hui à vivre dans un monde aussi hétérogène dans lequel ils doivent apprendre à communiquer, c'est-à-dire à maîtriser les outils de communication, apprendre à développer un esprit critique constructif, apprendre à coopérer, apprendre à échanger, apprendre à partager. Et ça, ce sont des dimensions qui sont, je pense, au cœur des métiers de demain, qui n'existent pas encore. Donc on ne peut pas former nos enfants aux métiers de demain, mais on peut les former à une capacité à s'adapter à un environnement changeant, à coopérer, à travailler ensemble, à mieux se connaître. Et on peut reprendre là des grands concepts philosophiques déjà depuis au moins Socrate. On sait que se connaître soi-même, c'est la base de l'apprentissage.
On va détailler, c'est tout un programme là déjà que vous avez brossé. Serge Pélissard, bonjour.
Bonjour.
Donc en tant que cofondateur et président de ces Assises du numérique, qui viennent donc de se tenir pour la cinquième fois à Paris, notez-vous une évolution des témoignages, des discours au sujet en particulier de l'éducation dans ces Assises ?
Oui, c'est flagrant. Je pense que déjà il y a des préalables, c'est-à-dire que on parle beaucoup plus de révolution digitale que de révolution numérique. Donc on a une mutation, une transformation sémantique en fait de l'explication de cette révolution, que ce soit d'ailleurs dans l'éducation, dans la santé, dans un certain nombre de domaines. Pourquoi ? Déjà parce que en fait la principale révolution est la révolution des usages, soit chez l'enfant, soit chez l'enseignant. Et le numérique est beaucoup plus rattaché en réalité à une problématique technologique. Bon, ça c'est une première transformation, évolution de langage. Ensuite, les repères sont totalement différents parce qu'il y a des ruptures. Ces ruptures sont, j'ai envie de dire, de trois ordres. Elles sont à la fois des ruptures de temps, des ruptures d'espace et des ruptures relationnelles. Et cette table ronde qui a été faite, vous l'avez rappelé, sur le thème de la révolution éducative, de la créa à la tablette numérique, montre en réalité qu'on passe, ou on prétend passer dans une société de la connaissance, et en réalité on est en train de rentrer très rapidement dans une société de la méconnaissance de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe entre ces outils qui permettent de communiquer en réalité beaucoup plus rapidement, et en fait une diminution de la connaissance de l'autre, c'est-à-dire de l'être humain.
Voilà, donc on va revenir sur cet aspect qui est très riche. Paul Mathias, bonjour.
Bonjour.
Donc le point de vue de l'inspection générale de l'éducation nationale est sans doute privilégié. Puis vous observez cette évolution depuis un certain temps. Alors comment jugez-vous cette progression de la révolution, d'une certaine façon ?
La progression du numérique, des usages du numérique, est relativement constante depuis quelques années. Les inspections générales, celles de l'éducation nationale et celles de l'administration de la recherche et de l'éducation nationale, ont toutes deux mené des enquêtes sur ces usages et ces développements, notamment une enquête assez importante l'année dernière, qui fait apparaître un développement, certes contrasté, des usages du numérique, mais une volonté ferme sur l'ensemble du territoire d'aller de l'avant. Certes contrasté, ça veut dire qu'il y a des académies où l'on s'est engagé dans le numérique depuis pas mal de temps, par exemple l'académie d'Aix-Marseille, à l'initiative du recteur de Godemar de l'époque, et puis d'autres académies qui sont entrées plus lentement, mais qui sont entrées aussi sûrement. Nous avons donc un territoire contrasté qui avance avec les moyens qui sont à sa disposition.
Alors, j'ai peut-être mal compris, mais je croyais que l'éducation nationale avait pour vocation justement d'uniformiser l'offre d'éducation pour l'ensemble du territoire.
L'offre d'éducation est parfaitement uniforme, mais les recteurs, les académies ont l'initiative de leur propre développement. Chaque recteur est légitimement appelé à conduire sa propre politique, à privilégier tel ou tel aspect de l'éducation, et il n'est pas illégitime que toutes les académies n'avancent pas comme un seul soldat sous la férule d'un commandement quelconque.
Donc un recteur peut aujourd'hui être un peu réticent à ces changements ?
Pas du tout. Je n'ai jamais rencontré de recteur réticent au développement du numérique. Simplement, les académies sont d'extensions différentes, elles comptent un nombre de professeurs variables, les territoires ne sont pas les mêmes, les difficultés technologiques ne sont pas les mêmes. Faire monter des lignes ADSL jusqu'à Saint-Véran, le plus haut village d'Europe, c'est difficile. Donc on ne peut pas uniformément, sur un simple claquement de doigts, développer tous les usages de tous les numériques et des fibres optiques partout. Ça n'est pas possible.
Très bien. Alors, on va revenir à un endroit peut-être plus accessible, le quartier chinois de Paris. Alexandre Acou, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous, c'est là que vous enseignez. Vous êtes professeur des élèves des écoles en CM2. Et vous avez un peu changé d'outil. Vous utilisez Twitter. Comment ?
Alors, j'ai pas vraiment changé d'outil. J'ai ajouté un outil à ce que j'avais déjà. Ma classe a un compte Twitter de classe que nous utilisons pour raconter la vie de la classe. J'ai pris cette initiative chez d'autres enseignants qui l'ont fait avant moi, notamment Laurent Juin, Amandine Terrier et puis Jean-Roch Masson. Aujourd'hui, il y a à peu près 240 classes qui ont un compte Twitter et qui l'utilisent. Donc c'est un outil, c'est pas un objectif en soi. Les objectifs, eux, sont bien d'ordre pédagogique. Le premier grand objectif, c'est de donner envie aux élèves d'écrire, de donner du sens à l'écrit, puisque c'est des écrits qui vont être lus. Et à travers ça, travailler le français et en premier l'orthographe. Mais la syntaxe également, la conjugaison, la grammaire. Et le deuxième objectif, qui est peut-être tout aussi important, c'est de travailler ces nouvelles compétences dont parlait M. Taddeï, savoir comment j'utilise cette masse de savoir, cette masse d'informations. Alors à mon échelle avec mes CM2, ça va être de leur faire apprendre à avoir une attitude responsable sur Internet, donc dans un domaine qui est public ou semi-public, enfin bon, en tout cas quelque chose qui est partagé, qui est visible. Savoir ce qu'on peut en faire, ce qu'on ne peut pas en faire, ce qu'on doit en faire, ce qu'on ne doit pas en faire.
Twitter, c'est un petit peu aussi souvent présenté comme le contre-exemple total de l'éducation à l'écrit. Comme une forme dégradée très critiquée.
Oui, je réponds très souvent et très simplement qu'il y a des livres très, très, très dégradants et... Voilà, qu'on peut trouver tout et n'importe quoi dans les livres, qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet, sur Twitter ou n'importe où. Je pense qu'il faut
mais
pas...
Mais l'expression très, très, très ramassée qu'impose Twitter
alors cette,
est particulière.
Oui, c'est très particulier. Donc évidemment, d'abord, il faut en avoir conscience hein, que cette limite ne va pas être en adéquation avec certains travaux. Évidemment, si on travaille la rédaction longue, Twitter ne va pas être le bon outil. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est un outil parmi d'autres. Par contre, si on va travailler, je prends un exemple pour être très concret, l'impératif présent et l'écriture de conseil, 140 caractères suffisent amplement. Donc on va pouvoir trouver, et je pourrais vous en citer des dizaines, que j'utilise ou que des collègues utilisent en ce moment ou utilisent avant moi, donc de travaux pédagogiques qui vont être en adéquation complète avec cet outil.
Paul Mathias, ça ne vous choque pas ?
Que
Twitter soit un outil pédagogique pour apprendre le français.
Non, l'expression concise est une expression qui peut être de qualité. Et l'on oublie trop souvent que pour tweeter, comme on dit, il faut écrire. Et écrire, en soi, est une pratique parfaitement noble.
Très bien. Olivier Perlot, bonjour. Vous représentez un peu l'étape suivante de l'école, c'est-à-dire l'université. Mais vous vous êtes aussi penché sur la formation des maîtres, puisque vous avez été directeur adjoint d'un IUFM. Quel est votre sentiment, vous, sur ce qui se passe à la fois peut-être à l'université et puis aussi à la frontière? Et tout ça ne doit pas être théoriquement des espaces totalement étanches, d'ailleurs.
Non, tout à fait. Alors, d'un point de vue université, les usages du numérique sont intégrés et on peut dire que la révolution numérique a eu lieu. Pour autant, dans mon propos, je n'ajouterai pas le mot pédagogie. Nos étudiants utilisent le numérique, nos étudiants ont accès à des environnements numériques de travail. 99,6% de nos étudiants se connectent au moins une fois à notre bureau virtuel par mois, ce qui est quand même un excellent pourcentage. Mais pour autant, quand on regarde les pratiques réelles, on n'a pas étudié les plus-values, mais quand on regarde les pratiques, 30% vont y chercher des cours. Et malheureusement, la plupart des cours restent au format textuel, au format PDF, comme on pourrait le dire. Donc, pour moi, il y a bien une révolution numérique, mais pas encore pédagogique. Si on regarde maintenant à l'intersection avec la formation des enseignants, j'aurais un constat un peu différent de mon voisin, où, en fait, pour moi, la révolution n'est pas encore passée non plus dans les usages des enseignants du primaire ou du secondaire. Quand on regarde une étude comme Prophétique, on se rend compte que seulement à peu près entre 40 et 50% des enseignants créent des séances où les élèves vont utiliser les technologies de l'information et de la communication. Donc on peut se dire qu'il y a encore un certain nombre de progrès à faire pour généraliser ces bonnes pratiques et ces pratiques innovantes.
L'UFM d'ailleurs est souvent mis en cause un peu dans ses carences peut-être de formation dans ce domaine.
Oui, tout à fait, oui, et on peut accepter d'être remis en cause. Il semble que les dernières réformes, qu'on a qualifiées notamment celles de masterisation, ont eu des effets plus que négatifs sur la formation des enseignants. La revisiter comme c'est fait actuellement, je pense que ça va dans le bon sens, et notamment d'avoir une formation tout au long de la vie d'un parcours d'enseignant. Il me semble absolument indispensable que cette formation soit cohérente de la formation initiale à la formation continue.
C'est ça, les UFM, de toute façon, leur origine est antérieure un peu à cette révolution numérique. Donc peut-être qu'ils n'étaient pas totalement adaptés à cette formation plus longue et plus suivie au cours de la vie.
Alors, ils n'étaient pas adaptés et puis ils n'entraient pas dans leur mission, par exemple, de s'occuper pleinement de la formation continue, ce que l'on peut espérer dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Mais pour autant, je pense quand même que l'UFM s'est adapté avec la mise en place notamment du C2I niveau 2 enseignant dès 2004. Je pense que de gros efforts ont été faits dans ce domaine.
Et donc ils vont être remplacés
par les ESPE, écoles supérieures école du professorat et de l'éducation.
Voilà, début 2013 probablement, c'est ça.
À la rentrée 2013.
Paul Mathias, peut-être,
vous pouvez confirmer. Je n'ai rien à ajouter à cela. Les textes sont en préparation, les dispositifs sont en train d'être réfléchis et mis en place. Je n'ai rien à dire sur cette question.
À l'occasion de cette réforme-là, est-ce que justement la dimension formation à des pratiques numériques a été intégré.
Je suis très certain que vous serez étonné par la communication de notre ministre Vincent Peillon le 13 décembre prochain, qui évoquera ces questions. Il est le seul habilité à le faire.
Donc on est un peu en avance sur
le
discours officiel et ministériel. François Taddeï, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, on voit bien que la réflexion intellectuel a progressé et il y a, semble-t-il, un blocage quelque part. On voit bien, puisque dans les pratiques, c'est ce que l'on observe le plus souvent, c'est là que les carences sont les plus fortes. Pourquoi cela bloque-t-il, à votre avis ?
Je pense qu'en fait, il est très difficile d'enseigner différemment de la manière dont on a appris. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Et on est toute une génération à avoir été formés différemment. Et nos enfants, aujourd'hui, sont dans un autre monde. Et on voit bien qu'ils sont en train d'apprendre différemment de nous parce qu'ils ont accès à d'autres outils. Et les enseignants sont comme tous les gens de nos générations, ont besoin d'un temps d'adaptation et ont besoin d'être aidés dans cette adaptation. Donc certains sont plus innovants que d'autres ou ont plus envie d'aller naturellement vers la technologie, voient leurs propres enfants, etc. et s'impliquent directement, ils apprennent les uns des autres. Mais ce qui manque, c'est effectivement, d'une part, une bonne formation continue pour tous les enseignants qui sont déjà en place, une bonne formation initiale pour tous ceux qui vont arriver, mais aussi une bonne recherche et un bon partage d'expérience. Et ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'au niveau de la recherche, le budget de l'éducation nationale et le budget de la santé dans tous les pays de l'OCDE sont à peu près équivalents. Et pourtant, les budgets de recherche sont 15 fois inférieurs dans le domaine de l'éducation que ceux de la recherche biomédicale. En France et dans tous les pays de l'OCDE.
D'accord.
Et donc, en fait, il y a un vrai déficit de recherche. Et donc, pour le coup, il y a beaucoup d'initiatives, mais pas beaucoup d'initiatives qui sont accompagnées, qui sont évaluées et dont on peut tirer des enseignements robuste en se disant ça marche, ça mérite d'être recombiné avec telle dimension pour pouvoir avoir un impact encore plus important. Et donc on a besoin de combiner la recherche, les expériences de terrain, la recherche en sciences cognitives, la recherche en technologie. On a besoin de développer des technologies pour l'apprendre
alors que la plupart des technologies qu'on a dans nos poches ou dans nos maisons sont des technologies qui ont été inventées pour d'autres raisons. Donc on a besoin de s'approprier ces technologies et de permettre au monde éducatif de se les approprier.
Paul Mathias, vous voulez
pour poursuivre le propos de François Taddeï, il faut se rendre compte que les enjeux sont des enjeux de fond, c'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est véritablement ce qu'est une culture à l'âge du numérique, ce que sont les humanités à l'âge du numérique. Nos humanités, pour résumer très très rapidement la chose, nos humanités, c'était Plutarque et les vies parallèles en 1880-1890. Qu'est-ce que c'est qu'un homme cultivé, qu'un humaniste du milieu du XXIe siècle? Nous ne le savons pas et nous sommes à la recherche de cette, non pas de cette définition, mais de cette appropriation des savoirs. Qu'est-ce que c'est que savoir? Qu'est-ce que c'est que manipuler des savoirs? Qu'est-ce que c'est que faire la synthèse des savoirs? Nous ne sommes plus à l'âge de la synthèse en trois pages. Nous sommes à un âge où les synthèses se font sur écran, ou se font par des liens HTML, par des tweets, par des balises, etc. Voyez-vous, c'est vraiment l'écosystème culturel et humaniste qui est en train de se transformer lentement.
Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio et que nous débattons aujourd'hui autour de la question « La révolution numérique de l'éducation a-t-elle eu lieu ?» avec nos invités Alexandre Acou, professeur des écoles et en particulier l'école CM2 dans le compte Twitter et classe Acou. Paul Mathias, inspecteur général d'éducation nationale. Olivier Perlot, vice-président de l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Serge Pélissère, président fondateur des Assises du numérique. Et François Taddeï, directeur de recherche à l'INSERM et également membre du Haut Conseil de l'éducation. Serge Pélissère.
Oui, juste pour réagir, pardonnez-moi, au propos de M. Mathias et de François Taddeï. Ce qu'on dit aujourd'hui dans les écosystèmes numériques, c'est la règle des 10. C'est-à-dire que globalement, mais ça va permettre de nourrir le débat, on parle globalement aujourd'hui de 2000 enseignants, professeurs, qui se seraient réellement en France appropriés le numérique. On parle de 200 000 enfants qui tweetent. On parle de 2 millions d'enfants qui ont un profil Facebook. Donc cette règle des 10 montre bien en fait que les usages évoluent beaucoup plus rapidement que les process et les méthodologies, mais qui sont évidemment très difficiles, de l'éducation. Et je crois qu'effectivement l'enjeu, c'est la formation des enseignants, beaucoup plus que l'accompagnement des élèves.
Oui, Olivier Perlin.
Oui, pour réagir, effectivement, à la formation des enseignants, il faut être vigilant par rapport à ce que disaient M. Pélissier et M. Taddeï, à ne pas générer non plus davantage de frustration que de réussite. Nous sommes dans un monde qui évolue à une vitesse supersonique. Les usages des tablettes, les usages des smartphones étaient totalement inconnus il y a 2-3 ans. Et actuellement, on veut faire croire à un enseignant qu'il va s'approprier l'outil, qu'il va en obtenir les subventions, les financements, parce qu'il y a toujours une part financière, qu'il va pouvoir l'utiliser, qu'on va pouvoir l'étudier, l'évaluer, etc. Et au final, le temps qu'on ait bouclé toute cette boucle avant d'arriver à un usage extrêmement profitable, c'est déjà un nouvel outil qui est en place. Donc plutôt que d'envisager des études sur les outils, regardons les bonnes pratiques, quel est l'objectif pédagogique derrière cet outil, pour ensuite se détacher si possible de l'outil.
Alexandre Acou, vous voulez intervenir également?
Oui, non, je rebondirais sur ce que je viens d'entendre. Je suis tout à fait d'accord. Il faudrait, je pense, se tourner vers l'apprentissage, en effet, de méthodes pour faire le lien entre ces outils qui vont changer. C'est-à-dire que nous, notre compte Twitter, dans 3 ans, il n'existera sans doute plus. Il y aura autre chose qui va le remplacer, que je ne peux pas vous citer, puisque ça n'existe pas encore. Ou alors, ce n'est pas très connu. Et donc, pour moi, ce ne sera pas un problème, puisque je passerai à un nouvel outil. Donc, je pense que moi, j'ai... En lisant d'autres enseignants, j'ai réussi à m'approprier cette compétence de faire le lien entre l'outil et ce qu'on doit apprendre à nos élèves. Et en effet, je pense que c'est la clé dans la formation continue. Moi, je privilégie également le partage d'expérience entre enseignants. Il se trouve que moi, par exemple, ce que j'ai appris ces dernières années, je l'ai appris à 95% dans les partages d'expériences avec des blogs d'enseignants, dans des rencontres, mais surtout entre pairs. Surtout avec d'autres enseignants du primaire, du secondaire. Alors, je ne veux pas mettre à mal la formation continue, mais c'est vrai qu'on sent que la formation continue est en course perpétuelle contre le temps et surtout, et malheureusement, toujours en retard.
Mais là, c'est ce que vous faites, en fait. Vous palliez la formation continue en la pratiquant entre vous, au fond.
Oui,
le partage d'expérience fait office de formation.
Alors, mes élèves ont un compte Twitter. Évidemment, moi, j'ai un compte Twitter. Et moi, j'ai une pratique très professionnelle, d'ailleurs que professionnelle sur mon compte Twitter. C'est-à-dire, je suis un professeur des écoles sur Twitter, et pas autre chose. Et en effet, tous les jours, j'ai des échanges à portée pédagogique. Alors, on fait pas des révolutions pédagogiques, mais tous les jours, j'ai cette
échange. C'est quoi un échange pédagogique sur Twitter, par exemple,
j'ai une idée qui me traverse la tête pour faire de la géographie et localiser un petit point sur la map monde pour apprendre la longitude et latitude. Je vais émettre cette idée sur Twitter. Un enseignant qui est à Dunkerque va reprendre l'idée en disant « Ah, c'est une bonne idée. Nous, on fait la même chose en ce moment avec mes CE2. Très bien, demain, on lance une activité qui va se terminer ou qui va commencer sur Twitter, sur de la correspondance scolaire tout à fait à l'ancienne, sauf que l'outil, lui, est moderne. Et voilà, c'est ça que j'appelle les partages d'expériences. C'est cette espèce d'émulation qu'on partage, les quelques collègues et moi, par exemple, sur Twitter.
Donc l'important, c'est un peu cette dissociation entre les outils, finalement, qui, eux, sont très fugaces, enfin, ont une durée de vie très courte, et puis les usages qui, eux, peuvent s'adapter à différents outils, François Tadé.
Oui, je pense qu'on vient d'entendre une très belle illustration de co-construction, de partage qui permet à chacun de s'améliorer. Et ça, c'est, je pense, la marque du numérique, ou en tout cas, c'est plus vrai à l'heure du numérique qu'au préalable. Au sens où les innovations avant, elles diffusaient au mieux localement. Aujourd'hui, elles peuvent diffuser d'un bout à l'autre de la France, voire de la planète, très rapidement. Et donc ça, c'est un gros progrès. Et je pense que les enseignants qui savent non seulement faire ça à leur niveau, entre eux, apprendre avec leur père, mais aussi faire ça dans leur classe, c'est-à-dire permettre aux enfants d'aujourd'hui d'apprendre les uns des autres, de co-construire des connaissances, de se rendre compte des limites de ce qu'on peut trouver sur Internet, mais également des potentialités, de se rendre compte de la qualité hétérogène dont on parlait tout à l'heure, et par exemple, de travailler, il y a une version Wikipédia pour enfants qui s'appelle Wikidia, les enseignants qui utilisent ça en classe peuvent se rendre compte que les élèves se rendent compte qu'il peut y avoir des erreurs sur Internet, y compris sur des pages de dictionnaire, et peuvent contribuer à les améliorer. Et donc, ils développent au passage un esprit critique, mais un esprit critique constructif dans lequel, quand il repère une erreur, il contribue à la modifier et donc il contribue à un écosystème de connaissances dans lequel les progrès de chacun aident tous à progresser.
Est-ce que c'est pas ça le cœur, finalement, de cette mutation apportée par le numérique, c'est-à-dire la mutation de vraiment l'acte d'enseigner et la technique d'enseignement, Paul Mathias?
Une échelle du savoir et de l'ignorance est en quelque sorte ébranlée, c'est un fait. Traditionnellement, le maître, le professeur, était le savant devant qui l'élève, d'abord un peu ignorant, ensuite un peu moins, apprenait des contenus de connaissances. Avec le numérique et ses usages, la position de savant et la position d'ignorant ne sont plus les mêmes dans tous les domaines. Alors je pense que le professeur d'histoire ou de géographie, le professeur de lettres ou de philosophie savent plus de choses que leurs élèves. Mais pour ce qui concerne les usages du numérique proprement dit, ça n'est pas du tout sûr. Et c'est en effet par une manière de collaboration, de coopération, de coproduction, non pas des savoirs, parce que les savoirs sont ce qu'ils sont, mais de coproduction, des manières d'échanger des connaissances, des manières d'échanger de l'information, des manières de traiter ces connaissances, cette information. C'est par cette coproduction que quelque chose de nouveau a lieu. C'est cette coproduction qui constitue un système nouveau, une gradation à venir, si l'on veut, des savoirs et des positions ignorants et savants. Et c'est quelque chose d'assez fascinant, d'ailleurs. C'est très intéressant du point de vue, justement, des évaluateurs et des décideurs, c'est beaucoup dire, de ceux qui infléchissent des politiques d'éducation. Cette position d'ignorance dans laquelle nous sommes est vraiment très, très stimulante.
Ah, vous trouvez ?
Absolument, absolument. Alors, stimulante.
Oui. Ce que vous dites me fait penser à cette expérience britannique, donc cette salle baptisée Star Trek, dans laquelle on voit effectivement que ça ne ressemble pas du tout à la salle de classe traditionnelle. À la fois les bureaux et le tableau donc sont multi-touch, c'est-à-dire que tout le monde peut déplacer des objets dessus. Et tout de suite, la structure de la classe est différente. Les élèves sont groupés autour d'un même bureau et non pas chacun isolé sur le sien. Le professeur, lui, navigue d'un bureau à l'autre et du tableau aux différents bureaux. Les élèves passent au tableau et reviennent à leur bureau ou à un bureau de quelqu'un d'autre. Enfin, il y a un extraordinaire mouvement quasi brownien autour de ces instruments de travail qui n'ont strictement très peu à voir avec la hiérarchisation à la fois de ce savoir et celui qui apprend et celui qui sait, mais également de la façon, de la technique, de la méthode, de ce qui se passe dans l'espace de la classe, François Tadi.
Ce que je pense, je suis tout à fait d'accord, juste sur le point mouvement brownien, je pense qu'il ressemble plus à du jazz, c'est-à-dire de l'improvisation, mais dans un cadre. D'accord ? Et si on va dans ce type d'école novatrice, et il en existe de par le monde, y compris en France, ce qu'on observe, c'est des cadres de liberté dans lesquels l'enseignant définit le cadre, mais l'élève, les élèves, le collectif, peut explorer dans ce cadre et être beaucoup plus motivé. Et les exemples les plus aboutis que je voudrais vous donner, c'est que, je ne sais pas si vous savez, puisque vous êtes une émission de science, quels sont l'âge des plus jeunes auteurs de publications scientifiques, mais non,
vous m'avez dit avant, ça m'a sidéré. Non,
c'est 8 ans, 8 d'accord ans. Et donc ça, c'est quand même exceptionnel. Et ce n'était pas un enfant exceptionnel, c'était une classe. Et c'était une classe à qui on a donné un cadre de liberté d'exploration. Et en fait, il y a d'ailleurs un livre qui a été publié par une auteure de Berkeley qui a été traduit en français.
C'est quel sujet quand même, parce que ça,
les
ça
bébés philosophes.
Ça éveille donc, l'attention, la curiosité.
Je peux décrire très vite, rapidement. C'est des enfants qui se sont demandés. Donc il y a un chercheur qui est venu dans cette classe et qui leur a dit « Est-ce que vous savez ce que c'est que la science ?» Les enfants ont dit « Oh !» Et il leur dit « Mais non, la science est un jeu. La science est un jeu et le but du jeu, c'est de comprendre le monde. » C'est de comprendre à quoi joue la nature. Et il leur a dit, à votre avis, à quoi jouent les abeilles? Et les enfants ont essayé d'imaginer, en allant dans le champ d'à côté, à quoi pouvaient jouer les abeilles. Ils sont rentrés, ils se sont demandé si les abeilles jouent au sudoku. Alors là, ils ont dit, peut-être pas. Mais finalement, ils ont réfléchi, ils se sont dit qu'un sudoku, c'était un motif, et que les abeilles avaient besoin de reconnaître les motifs. Et donc ils se sont demandé, et ils étaient les premiers à se le demander, si les abeilles reconnaissaient les motifs. Ils ont pu démontrer que les abeilles reconnaissent pas seulement les couleurs, mais aussi les motifs. Et la conclusion de leur article, c'est celle-ci, plus que la science, c'est cool et fun, d'accord ? Parce qu'on fait des choses que personne n'a jamais fait avant nous. Et donc on peut contribuer à la construction de connaissances. Et donc tous les enfants arriveront peut-être pas à ce niveau-là, mais ce qui compte, c'est la démarche qui est derrière. C'est la capacité à se questionner et à construire les outils, les méthodes qui vont nous permettre de répondre aux questions que l'on se pose. Et je vous donnerai juste un autre exemple pour dire que ça touche tous les citoyens tout au long de leur vie. Il y a une jeune maman qui a appris un jour que deux de ses enfants avaient la même maladie génétique. Elle n'avait aucune formation scientifique. Aujourd'hui, elle a 60 publications scientifiques sur le sujet parce qu'elle était la plus motivée pour apprendre et elle a su apprendre. Et donc, on apprend tout au long de sa vie. Et chacun d'entre nous, si on est suffisamment motivé, on peut aller jusqu'aux frontières des connaissances et contribuer à les faire bouger.
Oui, ça date même d'avant Internet, puisque je crois que l'affaire Lorenzo était du même type, et aussi c'était un parent qui a été très motivé pour essayer de trouver une solution à la maladie de son enfant. Et à chaque fois, et avec les outils actuels, c'est sûr que c'est encore plus puissant.
C'est beaucoup plus puissant parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce que disait Newton, qui est « pour voir loin, on a besoin d'être sur les épaules des géants », en fait, c'est accessible à tout le monde. D'accord. Et donc, ce qui est très important,
le géant, c'est démocratique.
L'accès aux géants, aux épaules de géants, c'est démocratisé. Et on peut aujourd'hui aider les enfants à gravir et à quasiment se téléporter avec les télécommunications dans l'espace des connaissances pour atteindre ces frontières. Il y a aujourd'hui, par exemple, des jeux de découverte scientifique. Pendant longtemps, un de ces jeux les plus célèbres qui a permis des progrès dans la recherche sur le sida en particulier, à le meilleur joueur, c'était un enfant de 12 ans. D'accord. Donc il y a des enfants qui aujourd'hui peuvent contribuer individuellement et collectivement au progrès des connaissances pour peu qu'on les ait mis dans le bon cadre et qu'on ait le bon accompagnement.
Est-ce que c'est pas ça qui, en fait, est le plus perturbant, Olivier Perlot? C'est cette perte, peut-être, de repères pour les enseignants, devenir un peu chef d'équipe d'une équipe de chercheurs, ce que nous décrit François Taddeï. C'est quand même très différent que de dispenser un savoir depuis son estrade.
Non, clairement, il y a un changement de posture à adopter, un changement de posture qui doit, je l'ai entendu un peu tout à l'heure, venir aussi de ceux qui forment les futurs enseignants. Hein. On n'est plus seulement dans une délivrance du savoir. Hein. Quand vous êtes dans un amphi de 200 personnes avec 30 étudiants qui sont connectés soit avec un smartphone, soit avec un ordinateur, la moindre erreur que vous êtes en train de délivrer sur la hauteur de la cathédrale de Reims ou la taille d'une bulle de champagne va être répercutée immédiatement dans l'amphithéâtre. Donc il faut changer clairement de posture, avoir d'autres formats d'apprentissage et ça nous fait prendre conscience que notre rôle doit changer. Nous ne sommes pas les enseignants forcément seuls à posséder ce savoir. Il est partagé, il peut être à vérifier, à synthétiser, à argumenter, à critiquer, etc. Il n'empêche que nous devons, nous, plus apporter à nos étudiants la capacité d'un esprit de synthèse, d'un esprit critique, plus que d'être capable de réciter le dernier théorème nécessaire pour un bon usage d'un algorithme, etc. Donc on ne doit pas être forcément dans ce type de processus, mais plus dans des pratiques qui nous permettent de nous fondre dans ce monde de connaissances numériques.
Alors on a entendu parler, et on entend parler régulièrement en fait, parce que ça fait l'actualité, des questions de copier-coller qui sont un petit peu le symbole de ce que le numérique a ouvert comme nouvelle porte qui n'était pas accessible auparavant, et de ces logiciels qui, semble-t-il, deviennent une activité en eux-mêmes de détection de ces copier-coller pour que les professeurs puissent conserver une maîtrise de ce qui se passe, de ce qui passe sous leurs yeux provenant de leurs élèves. Paul Mathias, est-ce que ça vous paraît être un objectif véritablement souhaitable que de dépenser autant d'énergie pour détecter le copier-coller?
Je trouve que la problématique du copier-coller n'est pas très très intéressante. Je crois que nous avons inventé de nouvelles manières d'enseigner, de nouvelles manières d'être en classe, de nouvelles manières de parler à nos élèves. La problématique du copier-coller, c'est la problématique du plagiat, c'est une problématique sur laquelle il faut passer, qu'il faut essayer de traiter. Je ne pense pas que l'essentiel de nos préoccupations soit là. Le côté de l'invention, le côté d'un nouveau monde, un nouveau monde du numérique, est un côté beaucoup plus attrayant, beaucoup plus étonnant et fécond que celui de la police des dissertations.
Merci, c'est bien que vous fassiez ce point dans la bouche de l'inspection générale. C'est tout à fait intéressant. Par ailleurs, François Taddeï nous parlait un petit peu de cette nouvelle façon de faire et on sent, et nous disait aussi en début d'émission, que la recherche dans ce domaine est très faible. On sent qu'il y a beaucoup à étudier, beaucoup de recherches à faire pour explorer ces nouveaux potentiels. Comment se fait-il qu'il y ait un tel décalage entre cette nécessité, et peut-être d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça a du mal à passer dans la pratique, la nécessité d'explorer et de faire de la recherche dans ce domaine et les moyens très limités qui y sont accordés? Paul Mathias, vous avez une explication à ce décalage
entre les moyens,
entre les recherches faites sur l'éducation menées sur les méthodes éducatives, sur ces nouvelles façons de faire, et le fait qu'elles ne sont pas menées, alors qu'il y a énormément à faire, semble-t-il.
Elles ne sont pas menées. Les recherches sur ces nouvelles méthodes éducatives sont menées. Je pense que les inspections générales y travaillent. Il y a des chercheurs que nous avons rencontrés lors d'une autre enquête sur le manuel à l'heure du numérique qui s'intéressent à ces questions de pédagogie, de pédagogie numérique. Nous avons un intergroupe à l'inspection générale qui... Dans l'objet principal, essentiel, concerne l'éducation et ses nouvelles méthodes. Vous dites que nous n'y travaillons pas assez. Je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment que nous y travaillons et que nous produisons des effets.
François Taddeï.
Je pense que pour que les recherches progressent, il faut qu'elles soient les plus ouvertes possibles, il faut qu'elles soient les plus partagées possibles, il faut qu'il y ait le plus de gens possibles qui puissent exprimer leur point de vue pour faire progresser les choses. Traditionnellement, en France, on segmente les disciplines et on segmente les approches. Et je pense que si on veut faire des vrais progrès, le monde, la nature, la société, une école, un enfant, ne rentrent pas dans une seule discipline, bien évidemment. Chaque discipline a une démarche intéressante et pertinente, probablement, mais c'est l'ensemble de ces démarches qui, chacune, amène un angle de vue différent qui permettent de prendre l'ensemble des dimensions en compte. Et c'est ce genre de choses dont on a besoin. Moi, ma vision personnelle, c'est un peu celle de la caverne de Platon, c'est-à-dire que dans cette caverne, nous sommes chacun dans une caverne avec nos approches disciplinaires et nous voyons simplement un reflet du monde. Si nous sommes plusieurs dans différentes cavernes à comparer nos approches, alors on va pouvoir mieux reconstruire les objets qui nous intéressent et en l'occurrence les nouvelles manières d'apprendre. Et moi par exemple j'ai appris plus sur les manières d'apprendre de la jeune génération, des enfants et des étudiants, que je n'en ai appris en lisant tout un tas de rapports ou en lisant même un ensemble de publications. Mais quand je lis, par exemple, une étude faite à Berkeley qui montre que les enfants entre 0 et 6 ans sont déjà des petits scientifiques, qu'ils explorent le monde, qu'ils font des observations, qu'ils font des expériences, qu'ils modifient leur vision du monde en fonction de ces expériences et qu'ils le font en utilisant des statistiques bayésiennes qui sont les formes les plus abouties de statistiques que les chercheurs ont fini par développer et qui font ça de manière intuitive.
Très récemment,
et qui font ça de manière intuitive, on se dit que moi, j'ai eu besoin de lire ce type de recherche pour me dire les enfants sont capables de choses exceptionnelles. Et donc, c'est à nous de savoir dans quel cadre on les met pour tirer le mieux de leur potentialité.
Vous écoutez Science Publique sur France Culture en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio où nous débattons aujourd'hui de la question « La révolution numérique de l'éducation a-t-elle eu lieu ?» avec nos invités Alexandre Accoux, professeur des écoles en CM2, Paul Mathias, inspecteur général de l'éducation nationale, Olivier Perlot, vice-président de l'université de Reims-Champagne-Ardennes, Serge Pilissère, président fondateur des Assises du numérique et François Tadei, directeur de recherche à l'INSERM et membre du Haut Conseil de l'éducation. Olivier Perlot.
Alors, pour abonder les propos de François Tadei, je vais peut-être faire caverne mienne en disant que l'université pourrait être cette caverne qui partage. Je pense que, et pour le dire extrêmement de façon synthétique, il faut non seulement développer cette recherche en éducation et notamment sur le volet numérique, mais en plus il faut l'intégrer pleinement dans les formations et dans la formation initiale et continue. Ce qui est relativement récent, vu que seulement depuis 2 ans, les futurs enseignants doivent avoir un master maintenant et donc s'initier à la recherche.
Alexandre Accoux, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous attendez ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Alors, on parle de recherche qui est en fonction peut-être des besoins des enseignants, mais vous êtes là, vous, praticien, en CM2. Est-ce que cette pratique d'échange d'expérience dont vous nous avez parlé, via Twitter par exemple, entre vous et d'autres enseignants, suffit à répondre à vos questions, à apporter des solutions ? Ou bien est-ce qu'il vous manque quelque chose et ça serait quoi dans ce cas-là ?
Moi, de mon point de vue, je pense que il manque peut-être, alors je ne sais pas à qui la faute, mais un sentiment de confiance chez les enseignants, chez mes collègues que j'ai pu croiser, peut-être un manque de confiance d'en haut. C'est-à-dire, est-ce que je vais me lancer dans quelque chose qui peut-être va être bien pris, peut-être va être mal pris, peut-être va pas être pris du tout en compte. Donc, moi, je sais que pour ma part, par exemple, quand j'ai démarré cette expérience à la rentrée 2011, j'ai demandé une autorisation qui ne m'est pas revenue. C'est-à-dire, j'ai pas eu de refus, j'ai pas eu d'autorisation. Mon directeur d'école, lui, était d'accord sur le principe. Et donc, j'ai décidé de démarrer tout de même l'expérimentation, mais en écrivant très rapidement un dossier pédagogique, en l'intitulant « Expérimentation », que j'ai ensuite envoyé donc à mon inspection et à mon inspection académique. ce qui finalement a été bien pris, mais sur en effet le niveau donc d'expérimentation.
Donc là, on rappelle que c'est l'utilisation de Twitter.
Voilà, l'utilisation de Twitter
avec des élèves.
Voilà. Peut-être qu'il manque en effet ce sentiment de confiance. Après, j'ai pas une vision assez globale pour comme je disais tout à l'heure savoir à qui la faute. L'autre souci, c'est peut-être les changements. De ce qu'on nous demande pas forcément des programmes mais comme compétences ou comme démarches, les avancées, parfois les retours en arrière. Donc ça, je sais que c'est plutôt un frein à changer ses pratiques quand déjà ce qu'on nous demande change constamment.
Serge Pélissard.
Oui, j'ai une réflexion en fait très courte, encore une fois, qui peut nourrir le débat. Je crois qu'il y a un vrai, dans tous ces questionnements-là, il y a un vrai changement de paradigme. Et je pense que la chose ou la dimension sociétale n'est pas remise suffisamment au cœur en fait des débats. Et je crois que la vraie question, enfin pour moi qui suis beaucoup plus extérieur que les uns et les autres autour dans cette émission, c'est de se poser la question suivante, c'est-à-dire que si on accepte préalablement qu'on peut apprendre des élèves, on peut accepter que le collaboratif, le coworking se fait beaucoup plus facilement. Donc je pense que quand on ne sortira pas de cette problématique en se posant cette question, et est-ce que l'éducation nationale ou même l'enseignement supérieur se pose cette question, on n'y arrivera pas, on tournera en rond, on essaiera de définir des synthèses, de légitimer un certain nombre de démarches, de justifier les approches par des chiffres, par des études, des enquêtes, voilà. Donc je pense que la problématique, elle est culturelle sur la manière d'apprendre, d'enseigner et de partager.
Paul Mathias, pour aller dans ce sens et puis pour reprendre aussi les termes employés par Alexandre Accoux, ce manque de confiance n'est pas forcément la meilleure situation pour stimuler les enseignants à prendre des initiatives, à explorer, à découvrir, à expérimenter.
Non, certainement pas. Ce n'est certainement pas la meilleure atmosphère pour expérimenter, comme vous dites. Seulement, je suis un petit peu désolé d'entendre que les corps d'inspection puissent susciter de la crainte, de la défiance. J'avais plutôt le sentiment que notre fonction était plutôt une fonction d'accompagnement, d'évaluation, certainement aussi, des expérimentations. Mais évaluation, ça ne veut pas dire sanction. Évaluation, ça veut dire conseil. Ça veut dire une tentative.
Écoutez, en France, ça veut souvent dire sanction, l'évaluation.
Non.
Non ?
Non. Enfin, l'expérience que j'ai, moi, évidemment, ce n'est que mon expérience. Hein, je parle, tout ici, à titre personnel. L'évaluation, ça n'est pas une affaire de sanction. Les enquêtes qui sont menées à travers le territoire sur telle ou telle expérimentation ne sont pas des enquêtes sanctions. Ce sont des enquêtes qui visent à énoncer un certain nombre de préconisations, à aider à certaines formes de développement d'usage pédagogique, et j'ai plutôt le sentiment que mes collègues et moi-même sur ces questions du numérique sommes d'une très très grande bienveillance à l'égard de ce qui peut se faire, même quand c'est raté. En fait, quand c'est raté, c'est très instructif.
Absolument. Il y a aussi le deuxième point soulevé par Alexandre Accoux, les changements. Et ça, on entend énormément, en dehors même de ce débat d'aujourd'hui sur le numérique, quand on parle des programmes ou de l'organisation en général de l'éducation nationale, cette critique revient très souvent. Ça change trop souvent et on n'a donc pas le temps ou pas la possibilité de tirer profit d'une situation parce qu'elle est balayée par une autre tout de suite après.
Les changements sont, je pense, le fait du politique. Alors, il y a des changements dans certaines dimensions de l'école. Dans d'autres, il n'y en a pas. Par exemple, dans l'enseignement de la philosophie que je connais un peu, il y a très peu de changements depuis plus de 10 ans. Dans d'autres disciplines, il y a eu des changements. En histoire et géographie, il y a eu beaucoup de changements ces 2-3 dernières années. Ça rechange. Un journal du soir d'hier faisait état de nouveaux changements. Le système éducatif est quand même un système extrêmement complexe où nous essayons de développer des politiques d'éducation, des contenus de formation. Nous avons le droit de nous tromper aussi, ou nous avons le droit d'essayer, d'expérimenter. Et je pense que nous expérimentons avec bienveillance.
Eh bien, j'espère que le message sera passé. Qui voulait intervenir ? Je crois que c'est François Taddeï.
Merci. Sur le problème de la confiance, il y a un très beau livre qui parle de la société de défiance, qui décrit la France et qui la compare à un certain nombre de pays internationaux et qui montre que la confiance que les individus ont dans leur hiérarchie, que les citoyens ont dans l'État et réciproquement, est à peu près au niveau de la Russie et de la Turquie en France. D'accord ? Donc ça vous dit que c'est quand même de grandes démocraties, comme chacun sait. Et donc on a un déficit par rapport à ça. Et c'est vrai que les pays qui accompagnent le mieux leurs enseignants, par exemple, dans leur volonté d'innover, ont transformé les inspections en des conseils. D'accord ? Alors ça fait partie des missions, mais tant qu'on s'appelle inspecteur, voilà, on fait forcément plus peur. Si vous devez parler à votre inspecteur des impôts ou à votre conseiller fiscal, assez vite, vous distinguez celui des deux avec lequel vous allez être le plus en confiance. Donc ça, c'est un point assez général, mais qui, à mon avis, joue sur cet aspect culturel dont nous parlions. Et pour vous donner un autre exemple dans le niveau du supérieur, puisque c'est au niveau du supérieur qu'on forme les enseignants, il y a eu pour la première fois de l'histoire des universités françaises un appel d'offres pour l'innovation à l'université. D'accord ? Donc on est tous à l'université des chercheurs, mais aussi bien on innove dans nos recherches, on n'innove pas forcément dans nos pratiques pédagogiques. Et ça, il est intéressant de se dire que on vient de lancer un appel d'offres de ce genre et nous avons pu y répondre. Et notre mission désormais est de former ceux qui veulent inventer de nouvelles manières d'apprendre, de nouvelles manières d'enseigner, de nouvelles manières de faire de la recherche et de nouvelles manières d'apprendre par la recherche, d'enseigner par la recherche, de faire de la recherche sur l'apprendre, de faire de la recherche sur comment enseigner.
Donc vous allez faire exploser la quantité de recherche sur ces domaines.
C'est effectivement notre but parce que je pense qu'on a besoin d'intégrer l'ensemble des dimensions dont on parlait. Et l'idée que nous avons est de construire un laboratoire ouvert dans lequel il n'y a pas seulement des chercheurs, il y a aussi des enseignants, des parents, des spécialistes de technologie, des spécialistes de différents domaines qui peuvent se retrouver et ensemble co-construire des projets et faire en sorte que les meilleures innovations ponctuelles comme la classe Twitter, par exemple, puisse s'intégrer à d'autres dimensions. Il y a, par exemple, en ce moment, des expérimentations où on peut apprendre le programme d'algèbre du collège en 3 heures dans un jeu. Alors, si on commence à reprendre l'ensemble de toute cette petite brique, on peut les assembler et réellement permettre à l'école de rentrer dans le 21e siècle et d'intégrer l'ensemble des dimensions au service des apprenants qui doivent avoir appris à apprendre et à s'adapter à un monde qui est en accélération constante. Ils doivent avoir développé la confiance en eux, parce qu'on a parlé des problèmes de confiance entre les enseignants et leur hiérarchie, mais la confiance et l'évaluation au sein des classes, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à construire.
Oui, donc Paul Mathias, si l'enseignant a déjà un petit peu une crainte de ce qui peut se passer au-dessus de lui et qu'il transmet cette crainte à ses élèves, on n'est pas tout à fait effectivement dans l'univers de confiance dont on peut rêver. Est-ce que cette distinction inspecteur-conseiller vous paraît intéressante, Paul Mathias?
C'est une distinction que je vis. Plutôt, c'est une distinction.
Vous voyez, vous êtes l'inspecteur.
Vous me faites perdre mon latin. ce que je voulais dire, cette distinction, en fait, je la vis comme unité. Je n'arrive pas personnellement à exercer mon métier comme un métier de contrôle. Je ne me sens pas contrôleur des impôts. Je ne me sens même pas contrôleur des professeurs. Quand je vais dans une classe, j'écoute la leçon du professeur. Elle me plaît, elle ne me plaît pas. Je discute avec le professeur. Si j'estime avoir des conseils à lui donner, je les lui donne. Et puis après, il en fait ce qu'il veut. Parce qu'après tout, je n'ai aucun pouvoir. C'est ça qui est important aussi. Le contrôleur des impôts a un pouvoir de redressement. Je n'ai aucun pouvoir de redressement. Donc je ne peux que conseiller.
Vous pourriez très bien vous appeler conseiller. Ça ne nuirait pas ou ça ne violerait pas les missions que vous semblez nous exposer aujourd'hui.
L'inspection générale s'appelle comme ça depuis plus de 200 ans.
Alors, c'est effectivement un argument massu. Alexandre Acou.
Oui, par rapport à cette séparation, par exemple, inspecteur-conseiller, c'est vrai. D'ailleurs, moi, par exemple, j'ai un inspecteur, j'ai aussi des conseillers pédagogiques qui ont pu venir me voir dernièrement pour un autre projet. C'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, et ça rejoint ce que vous disiez d'ailleurs vous-même tout à l'heure, c'est peut-être les différences locales. Les différences locales parce que, alors, ça va être un problème local, par exemple, une classe qui n'a pas l'autorisation d'utiliser Twitter alors qu'il y avait un projet pédagogique bien préparé. Alors, ça, faut pas généraliser, puisqu'il y en a, donc, je disais, 230 francophones, donc, pas tout en France, mais à peu près 150 en France, qui sont, qui, en tout cas, qui semblent autorisés. Mais ces petits problèmes, finalement, c'est ce que vont retenir, vous voyez ce que je veux dire, la majorité des enseignants. Et c'est ça, peut-être, cette défiance.
Bien sûr, mais songez que localement
Paul
aussi...
Mathias.
Pardon, localement aussi, ce qui compte énormément, ce sont les interactions entre des individus. Ce ne sont plus des statuts, ce n'est pas le chef, le sous-chef, le professeur, l'élève, etc. Ce sont des individus qui s'apprécient ou ne s'apprécient pas, qui s'aiment, qui ne s'aiment pas, qui s'entendent bien, qui ne s'entendent pas, pour on ne sait trop quelle raison d'ailleurs. Alors parfois ça marche bien, ça passe bien, le courant passe, parfois le courant ne passe pas. On ne peut pas, sur ces impondérables, sur cette accidentelle de la vie courante, baser une politique, ni constante.
Je suis d'accord, juste
Alexandre Acou.
Je suis d'accord, juste peut-être. Donc là, on revient vers le politique, donc je ne vais pas en dire grand-chose, mais peut-être des symboles. Alors peut-être que là, il nous faudrait à ce moment-là un symbole fort venant d'en haut pour clarifier justement cette situation, pour qu'elle soit clarifiée à tous les étages, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, et que voilà, que tout le monde marche sur le même chemin.
Ça veut dire ne pas que vous ne ressentiez plus cette peur d'expérimenter une nouvelle méthode pédagogique comme Twitter.
C'est le discours qui m'arrive d'entendre. Moi, dans mon cas, j'ai construit mon projet et finalement c'est passé. Mais voilà.
Donc vous entendez des cas où ça se passe mal.
Où ça se passe mal, oui.
Oui.
Où ça se passe pas.
Où ça se passe,
ça se passe pas.
Sur le plan du symbole, notre ministre est professeur de philosophie, est de surcroît très très versé dans le numérique. C'est quand même un sacré symbole.
Qu'il n'utilise plus depuis le mois d'avril.
Il n'utilise plus son compte...
Monsieur Payon, depuis le mois d'avril.
Pour une raison politique.
Je pense qu'on leur a demandé d'arrêter d'utiliser leur compte Twitter.
Voilà. Juste un mot...
Mais je suis d'accord avec vous, il y a le souci du numérique, hein. C'est dans tous les discours. Mais
c'est un professeur.
Serge Pellissard, un mot.
Oui, vraiment un mot. Moi, je vais vous faire une proposition pour les prochaines assises du numérique. C'est de changer le titre d'une de nos conférences et d'appeler ça de la craie à la baguette numérique. Et on arrivera à mettre tout le monde d'accord sur, justement, la différence entre le rôle de l'inspecteur et du professeur des écoles.
Sur ces mots, effectivement, qui nous ouvrent des perspectives éblouissantes, le débat de Sciences Publiques s'achève. Merci à Alexandre Acou, Paul Mathias, Olivier Perlot, Serge Pellissard et François Tadé d'y avoir participé sur le site de Sciences Publiques. Vous trouverez des références d'ouvrages et de sites internet sur l'éducation et l'utilisation des nouveaux outils numériques. Vous pouvez également réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Et bien entendu, nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, vendredi 7 décembre, Sciences Publiques retrouvera son partenariat avec Science et Vie. Nous aborderons un sujet médical induit par les récentes études montrant que la prise régulière de certains médicaments aurait un effet préventif sur plusieurs maladies. En tête de ces pilules miracles, on trouve l'aspirine. Que peut-on dire sur de telles études? La prise régulière d'aspirine apporte-t-elle réellement un bénéfice à long terme ou peut-elle engendrer d'autres problèmes? Nous en débattrons avec nos invités Marc Bardou, Robert Benamouzig et Marc Forest. Sciences Publiques, Dominique Briffaut, Alexandre Dang, Marie Dalquier, Michel Albert-Gonti.